Bonsoir, chers amis. Nous voici donc maintenant arrivés devant l'œuvre principale de Saint Jean Cassien, puisqu'il s'agit des conférences. C'est très bien d'ailleurs parce que ça coïncide un petit peu avec le temps liturgique. Nous sommes au milieu du carême, nous avons passé les institutions synoptiques, nous avons passé la première phase en quelque sorte de la vie spirituelle. Et nous abordons maintenant la deuxième phase de la vie spirituelle, telle qu'elle a été conçue par Saint Jean Cassien. Les conférences, c'est une œuvre assez monumentale. Ça fait 3 volumes dans les éditions des sources chrétiennes, plusieurs centaines de pages, près de 900. Et de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de conférences de Saint Jean Cassien, comme on me le dit de temps en temps, mais il s'agit d'entretiens que Saint Jean Cassien, avec son ami Germain, a avec des pères du désert. Donc il interroge les pères, et c'est une sorte de question-réponse, si vous voulez, et chaque père, en quelque sorte, intervient sur un sujet précis. D'ailleurs, un père peut intervenir sur une ou deux conférences. Ces sujets sont bien sûr tous de nature spirituelle, le renoncement, le discernement, les 8 vices, la vertu, la chasteté ou la prière. Et en général, c'est Germain, l'ami de Saint Jean Cassien, qui pose une question. Et là-bas, c'est ainsi qu'on appelait un père spirituel égyptien, Abba ou Abba, c'est-à-dire le père, répond. Ces entretiens, il faut bien voir que ont été mis par écrit assez longtemps après le voyage de Saint Jean Cassien en Égypte, 20 ans. Donc il ne s'agit pas d'un reportage. Il ne faut pas voir dans ces entretiens des notes directes, si vous voulez, vécues que Saint Jean Cassien aurait pu avoir avec ses pères. Mais il y a un fil conducteur important, à savoir qu'il y a une progression. Et il y a une progression dans toute l'œuvre de Saint Jean Cassien. Il y a une marche spirituelle. Les institutions cénobitiques, on l'a dit, sont consacrées à la première phase de la vie spirituelle. On appelle la praxis, on appelle aussi la scientia actualis, comme dirait Saint Jean Cassien. C'est-à-dire en fait l'action, ce qu'il faut faire. Et la deuxième phase, en quelque sorte, de la vie spirituelle est plus axée sur la contemplation. C'est la scientia spiritualis de Saint Jean Cassien. Et les conférences sont axées sur cette deuxième phase de la vie spirituelle. Donc si les institutions cénobitiques traitent de cette scientia actualis, les conférences vont progressivement nous faire pénétrer dans cette vie spirituelle, dans cette montée spirituelle. Et on peut dire que entre les conférences 1 à 10, il y a une progression. La première est très importante parce que c'est presque une conférence, on pourrait dire, programmatique, où Saint Jean Cassien, au travers de l'abbé qui peut parler, c'est-à-dire l'abbé Moïse en l'occurrence, fait dire des choses tout à fait fondamentales. Et progressivement, on va monter jusqu'aux conférences 9 et 10 qui constituent des sommets. Donc, les conférences 1 à 10 constituaient un tout avec les institutions cénobitiques. Et les dernières conférences 9 et 10 étant orientés sur la prière. Cela répondait aux demandes d'un évêque, Castor d'Apt, qui souhaitait que Cassien mette par écrit les 10 conférences des plus grands pères parmi les pères du désert, c'est-à-dire des anachorètes qui demeuraient dans le désert de Sété. Je vous rappelle que Sété, c'est le Wadi Natroun, on en a déjà parlé, où se trouvaient plusieurs communautés de moines. Les conférences donc concernent essentiellement ces pères, sauf à l'exception de la conférence 6, qui est consacrée à un père de Kélia. On peut noter aussi que cet ordre des conférences ne correspond pas à celui du voyage, des déplacements de Cassien. Effectivement, si on regarde un petit peu le voyage qu'a fait Cassien, les relations qu'il en donne au travers des pères qu'il a interrogés, il est arrivé de Bethléem, donc de Palestine, et il est arrivé sur la côte est. À l'est se trouve un grand lac, qu'on appelle le lac Menzaleh, et là, il y avait une petite île qui servait aussi de port, qu'on appelle Ténessos ou Ténis, et il a débarqué à cet endroit. Puis il s'est rendu à l'intérieur des terres, où il a décrit une sorte d'arc de cercle jusqu'à la mer. Il est revenu sur ses pas pour se rendre finalement au Wadi Wentroun et à Sété. Donc, ces pères vont être l'objet d'interrogations, et son séjour à Sété va se diviser lui-même en deux périodes. Les conférences 1 à 5 des abbas Moïse, Paphnus, Daniel, Sérapion, etc. Puis un deuxième séjour qui comprendra les conférences 21 à 23, ainsi que les conférences 7 et 8 de l'abbas Sérénus. Les conférences 9 et 10 sont de l'abbé Isaac, sont datés d'une période très précise. Alors c'est intéressant parce qu'on peut les mettre en relation avec un événement extrêmement précis, c'est ce qu'on a appelé la querelle anthropomorphique. Vous savez, on en a parlé un petit peu au début, tout à fait au début, il y avait une querelle parmi les moines pour savoir si le fait que l'homme était créé à la ressemblance de Dieu voulait dire que Dieu était un homme. Et donc un certain nombre de moines le croyaient, au grand dam d'ailleurs de Saint Jean Cassien, et donc il y a une querelle à ce sujet. Donc, je rappelle simplement, 1 à 10 se situe à Sété, sauf la conférence 6. 11 à 17 concernent des moines du Delta que Cassien a rencontrés en premier lieu. Et 18 à 24 avec des moines de Sété et du Delta. Il y a en tout 24 conférences. C'est un nombre assez important. Et ce nombre n'a pas été choisi au hasard, il est mis en relation avec les 24 vieillards de l'Apocalypse. Je vous rappelle le passage de l'Apocalypse. Aussitôt l'Esprit se saisit de moi, et là dans le ciel se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un siégeait. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels se trouvaient siégés 24 anciens vêtus de blanc et portant des couronnes d'or. Donc ces 24 anciens, si vous voulez, qui se reflètent dans ces conférences. C'est Apocalypse 4, 2, 4. On peut noter aussi que c'est un thème assez fréquent. La représentation des 24 vieillards de l'Apocalypse est un thème fréquent de la peinture copte. Et on le trouve fréquemment représenté dans les églises coptes, où d'ailleurs le mot qui est employé, presbytéroi pour vieillard, est réinterprété à l'époque comme signifiant prêtre. Donc il s'agit à ce moment-là de 24 prêtres. Je voudrais vous présenter aujourd'hui les premières conférences du volume publié dans la collection Sources chrétiennes. Alors évidemment, la traduction était un peu ancienne, mais heureusement, elle a été révisée relativement récemment, en 2008. Les deux premières conférences sont celles de l'abba Moïse, qui apparaît aussi dans d'autres circonstances. Il est cité dans les apophthegmes, on le trouve dans l'histoire losiate, et le thème en est la pureté du cœur. L'abba Moïse commence par faire une distinction en expliquant tout art a son but particulier et une fin qui lui est propre. La fin, c'est en quelque sorte la finalité. Le but particulier, c'est ce qu'on peut faire immédiatement pour arriver à cette finalité. C'est ce qu'il appelle le scopos, le but immédiat, et le telos, la fin que l'on doit atteindre. La fin que l'on doit atteindre, c'est le royaume des cieux. Le scopos, le but immédiat, le moyen pour l'atteindre, c'est la pureté du cœur. Et il va développer cette notion très importante de pureté du cœur. Je vous rappelle aussi que dans le tableau que vous avez disponible sur le site, la pureté du cœur se trouve au centre, en quelque sorte, de l'évolution spirituelle. Entre l'homme extérieur et l'homme intérieur, vous avez la puritas cordis. Et Cassien, au travers de l'abbé Moïse, va largement insister sur l'importance de cette pureté du cœur. Il y a cette phrase fameuse, et on gagne moins par un jeûne que l'on ne perd par un mouvement de colère. Ce qui compte n'est pas seulement l'acte extérieur, qui bien sûr est indispensable, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne, la façon dont c'est vécu. Et il dit, il convient de rapporter les choses secondaires, les jeûnes, les veilles, les retraites, la méditation des Écritures à notre but principal. Il ne faut jamais perdre de vue cela. Et il insiste, ce qui serait de nature à troubler la pureté et la paix de notre cœur doit être évité comme quelque chose de très nocif, de quelque utilité ou nécessité qu'il paraisse. C'est une phrase importante, je crois. Je la répète, tout ce qui peut troubler la pureté et la paix de notre cœur doit être évité comme quelque chose de très nocif, de quelque utilité ou nécessité qu'il paraisse par ailleurs. Et il insiste encore, ce doit être le but premier de nos efforts, l'immuable dessein et la passion constante de notre cœur d'adhérer toujours à Dieu et aux choses divines. Tout ce qui s'éloigne de là, quelque grand qu'il puisse être, ne doit tenir dans notre estime que le second ou même le dernier rang, voire être considéré comme un danger. Et ici, d'ailleurs, se place un passage de l'Évangile très important. De cet esprit et de cette manière d'agir, l'Évangile nous donne une très belle figure dans la personne de Marthe et de Marie. Je ne vais pas vous citer toute la péricope de l'Évangile, mais je vous rappelle juste un passage. Marthe, Marthe, vous mettez en peine et vous vous agitez pour beaucoup de choses. Mais il n'est besoin que de quelques-unes. Une seule même suffit. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas ôtée. Notez ce « elle ne lui sera pas ôtée ». Vous voyez que le Seigneur, c'est le Christ qui parle, établit le bien principal dans la contemplation. Il suit que les autres vertus, pour nécessaires et bonnes que nous les proclamions, doivent pourtant être mises au second rang, parce que c'est en vue d'elles qu'elles sont pratiquées. Le Seigneur place le souverain bien, non pas dans l'action, quelque louable qu'elle soit, et abondante en fruits multiples, mais dans la contemplation de lui-même, laquelle est en vérité simple et une. Il suffit de peu de choses, déclare-t-il, pour la simple béatitude. Et par là, il entend signifier ce premier degré de la contemplation où l'esprit s'occupe à méditer l'exemple d'un petit nombre de saints. L'utilité de l'exercice corporel, c'est une phrase de saint Paul, a de promptes limites. Mais la piété, et c'est la charité sans doute qu'il faut entendre, est utile à tous. Elle a les promesses de la vie présente et future. Dire que l'utilité de l'exercice corporel a ses promptes limites, c'est simplement dire que l'on ne peut s'y livrer toujours. Il passe. Il est limité à cette existence. et il ne saurait conférer par lui-même à nos efforts la somme de la perfection. Car cette expression des promptes limites peut signifier également soit la brièveté de la durée, et que l'exercice corporel n'est pas l'inséparable compagnon de l'homme pour le temps et l'éternité. Nous trouvons donc ces œuvres pour nécessaires, mais parce qu'il est impossible sans elles de gravir les cimes de la charité. Donc je vous rappelle, nous sommes dans les conférences. Nous avons passé les institutions cénobitiques. Les institutions cénobitiques sont centrées sur les actions, sur les œuvres, si vous voulez. Maintenant, nous sommes dans un deuxième aspect de la vie spirituelle, même si le premier ne cesse jamais, à savoir la contemplation. Et sans les premiers, il est impossible d'arriver à la seconde. C'est ce qu'il dit. Nous tenons donc les œuvres pour nécessaires, non pas en soi, mais parce que sans elles, il est impossible de gravir les cimes de la charité. C'est-à-dire qu'arriver à cet état de participation divine, de charité, le mot ici, charité, et c'est une traduction du mot agapé. C'est de l'amour de Dieu dont il s'agit. Et il y a un lien étroit qui est souligné par saint Jean Cassien, qui existait déjà, d'ailleurs chez Eva, mais peut-être pas avec la même insistance, entre l'état de pureté du cœur et la participation à l'amour de Dieu. Les deux vont de pair. Non seulement les deux vont de pair, mais c'est seulement aussi parce que l'individu aura, disons, obtenu cette purification intérieure, qu'il pourra aussi aimer, en quelque sorte, de façon large, et aimer son prochain selon la volonté de Dieu. Tant qu'un individu n'est pas vraiment purifié, il ne peut pas aimer au sens chrétien du terme, parce que son amour est passionné. Bien sûr, il ne s'agit pas, encore une fois, que des efforts de l'homme. Les efforts sont nécessaires, mais c'est la grâce qui agit. Et cet amour que l'homme va vivre, va ressentir, va exprimer, cet amour jamais ne périra. Parce que ce n'est pas simplement dans ce monde que cet amour agit, mais dans le siècle à venir encore. Déposer le fardeau des nécessités corporelles, il persévérera plus efficace, plus excellent, sauf à jamais de toute altération pour adhérer à Dieu dans l'éternelle incorruptibilité avec une flamme plus vive et une plus pénétrante intimité. Donc l'objet de saint Jean Cassien, c'est que le chrétien accomplisse sa vocation chrétienne, devienne en quelque sorte le temple du Saint-Esprit et exprime en quelque sorte cet amour qui s'exprime aussi dans l'Esprit-Saint. C'est un retour à Dieu dans l'amour. Que chacun le sache maintenant dès qu'il demeure en ce corps, il sera député au séjour et au ministère qu'il aura choisi en cette vie pour son partage et dont il sera fait le dévot. Il aura au siècle sans fin le sort de celui dont il se sera montré par préférence le ministre et l'associé. De même que par la connivence dans le vice on s'ouvre le royaume du diable, on possède celui de Dieu par la pratique des vertus, dans la pureté du cœur et la science spirituelle. Donc la visée de saint Jean Cassien est une visée, pourrait-on dire, eschatologique, qui ne vise pas simplement cette vie, mais qui va même au-delà. Et cette eschatologie, cette visée eschatologique est présente et anime saint Jean Cassien dans toutes les conférences. Il y a un passage intéressant aussi sur la contemplation de Dieu. Par exemple, en 1.15.1, 1, page 125, il dit « Pour ce qui est de la contemplation de Dieu, elle s'entend de plus d'une sorte, car on ne le connaît pas simplement par l'admiration de son essence incompréhensible, bonheur encore caché dans l'espérance de la promesse, mais les grandeurs de la création, sa justice, la providence qu'il fait paraître chaque jour dans le gouvernement du monde, le manifestent également. Ainsi en est-il lorsque nous suivons des regards d'une âme toute pure, la conduite qu'il a tenue sur ses seins de génération en génération, et que nous admirons d'un cœur tremblant la puissance avec laquelle il gouverne, modère et régit toutes choses. Sa science sans borne et ce regard auquel ne peut se dérober le secret des cœurs, lorsque nous songeons qu'il a compté les grains de sable de la mer et le nombre de ses flots, et que nous considérons avec stupéfaction que chaque goutte de pluie, chacun des jours et chacune des heures dont sont faits les siècles, tout ce qui fut et tout ce qui sera est présent à sa connaissance. Aussi bien les considérations de ce genre sont-elles infinies. Elles se lèvent dans nos puissances de connaître, selon la perfection de notre vie et la pureté de notre cœur. Et il conclut, par elle, c'est Dieu qui est vu et possédé en de pures intuitions. Ça, c'est vraiment intéressant comme texte parce que vous avez une esquisse, une ébauche d'une théologie de l'essence et des énergies. Et l'énergie, c'est les manifestations de Dieu, la façon dont Dieu se manifeste à nous dans le monde. C'est ça l'énergie, c'est rien d'autre que ça. Et il dit, par elle, c'est Dieu qui est vu et possédé en de pures intuitions. C'est-à-dire qu'il ne fait pas, il n'y a pas de rupture entre ces énergies et Dieu. Elles ne sont pas créées, si vous voulez. Là-bas, Moïse continue. Il est impossible, j'en conviens, que l'esprit ne soit pas traversé de pensées multiples. Mais il reste choisible à qui veut en prendre la peine de les accueillir ou de les rejeter. La naissance ne dépend pas de nous entièrement. Nous ne sommes pas responsables de nos pensées, ou assez peu. Mais il dépend de nous de les repousser ou de les accueillir. Je déclare au contraire qu'il dépend de nous, pour une grande part, de hausser le ton de nos pensées, et qu'elles soient saintes et spirituelles, ou terrestres et charnelles. Aussi bien, la lecture assidue et la continuelle méditation des Écritures à tel point d'autre but que de procurer l'éclosion dans notre mémoire de pensées divines. Donc là, vous voyez déjà aussi l'intérêt de cette Écriture, de la méditation des Écritures, de s'imprégnation des Écritures. C'est ce que faisaient d'ailleurs la plupart du temps les moines. C'est une manière de communier en quelque sorte avec le Verbe, puisque l'Écriture, c'est l'habit du Verbe, c'est l'habit du Logos qui se manifeste dans les Écritures. Et le sens de l'Écriture, le sens profond de l'Écriture, selon saint Jean Cassien, est révélé aussi en fonction de la purification du cœur de celui qui les lit. Celui qui n'est pas assez purifié, à ce moment-là, va introduire des passions, il va commencer à comprendre les choses de travers. Mais plus la purification se fait, plus le sens de l'Écriture devient profond et limpide pour lui. Cette imprégnation des Écritures, qui était si importante, a aussi un rôle dans la formation donc des pensées du moine. Le chant répété des psaumes est destiné à nourrir une compunction continuelle, et notre empressement aux veilles, au jeûne et à la prière a pour dessein d'affiner tellement l'âme qu'elle perde le goût des choses terrestres et ne veuille plus contempler que les célestes. Que si nous laissant gagner à la négligence, nous quittions ces saints exercices, on verrait par une suite fatale l'âme épaissie de la malpropreté des vices pencher bientôt du côté de la chair pour enfin s'y ruer. Nous devons donc remarquer avant tout qu'il y a trois principes à nos pensées. Nos pensées ont trois origines, selon l'abbé Moïse. Dieu, le démon, et nous-mêmes. Elles sont de Dieu d'abord, soit qu'il daigne nous visiter par une illumination de l'Esprit Saint, nous élevant à des voies plus hautes, qu'il nous châtie par une componction salutaire, des occasions manquées de progresser, soit qu'il nous découvre les mystères du ciel et tout notre propos à des actes et des résolutions meilleures. On comprend bien, la trame de nos pensées est du diable, parce qu'il s'efforce de provoquer notre chute par l'attrait du vice par le moyen de secrètes embûches. Elles viennent de nous, enfin, lorsque par le jeu naturel de nos facultés, nous songeons à ce que nous faisons et nous souvenons de ce que nous avons fait ou entendu. Il nous faut être continuellement en éveil quant à cette triple cause de nos pensées et appliquer à toutes celles qui émergent de notre cœur un sagace discernement. Nous en rechercherons avant tout l'origine, la cause, l'auteur, afin de considérer d'après le mérite de celui qui nous les suggère l'accueil que nous devons leur faire. Ainsi deviendrons-nous, d'après le précepte du Seigneur, d'habiles changeurs. C'est-à-dire, là il fait allusion à un texte qui n'a pas été retenu dans les textes canoniques, qu'on appelle les textes apocryphes, où on parle justement des pensées comme étant plus ou moins valables, suivant le caractère aussi, la comparaison est faite avec les pièces qui sont plus ou moins en or ou pas. L'habileté et la science des changeurs triomphent à discerner l'or parfaitement pur et celui qui n'a pas celui au même degré l'épreuve du creuset. Ainsi, le discernement nous sera nécessaire et nous arrivons ici à une espèce de transition qui est très importante vers le discernement. Comment discerner les pensées ? Il s'agit de ne pas se laisser abuser sur la matière même. L'or est-il vrai, est-il faux? Nous devons en second lieu écarter comme fausse monnaie les pensées qui prennent mensongèrement les dehors de la piété. Nous aurons ensuite à discerner et rejeter pareillement celles qui impriment sur l'or très précieux des Écritures un sens hérétique et vicieux. Il nous faut en faire accuser comme des pièces trop légères, dommageables et incapables de faire l'équilibre les pensées qui ont perdu par la rouille de la vanité de leur poids et de leur valeur. Et il conclut, ainsi labourant à toute heure, à tout moment, la terre de notre cœur avec la charrue de l'Évangile, c'est-à-dire avec le souvenir incessant de la croix du Seigneur, nous arriverons à détruire les repères des bêtes féroces et les trous des serpents venimeux. Le lien avec le dimanche de la croix est... Je dis pas, bon, c'est un, il y a ça, et puis il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que l'image de labourer le cœur avec la charrue de l'Évangile est une image qui est très présente dans les homélies de Saint-Macaire, ce qu'on appelle les homélies macariennes. Et donc là, c'est pas le seul endroit, il y a plusieurs endroits où on peut saisir ça, on voit que Saint Jean Cassien a lu quelque part les homélies macariennes, ou une série d'homélies macariennes, puisqu'il y a plusieurs séries. Ce n'est pas non plus complètement étonnant. Il a été à Constantinople, il était près de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome a été en Syrie, je vous rappelle. Donc voilà, les homélies macariennes circulaient dans les milieux monastiques. Il y a un travail à faire, d'ailleurs, si quelqu'un, ça intéresse quelqu'un, voilà, le lien entre Saint Jean Cassien et Saint Macaire et l'homélie macarienne. La seconde conférence est une conférence qui s'inscrit dans la première et qui va insister sur le discernement. Le mot qui est employé, c'est le mot discrétion. C'est un faux ami, c'est pas la discrétion, hein, mais ça veut dire le discernement. Ce discernement des esprits est donné. C'est un don, et c'est l'apôtre qui le dit. C'est dans le 1 Corinthiens 12. À l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de science selon le même esprit, à un autre le don de guérison, à un autre le discernement des esprits. C'est saint Paul qui dit ça. Enfin, après avoir achevé la liste des charismes spirituels, C'est le seul et même esprit qui produit tous ces dons, les distribuant à chacun comme il lui plaît. Donc nous avons aussi l'image, n'est-ce pas, de la personne de l'esprit, l'essence, si vous voulez, et les manifestations dans les dons, qui sont les énergies de l'esprit. C'est la discrétion qui est appelée dans l'Évangile l'œil et la lampe du corps. Et la lampe du corps, dit le Seigneur, c'est votre œil. Si votre œil est simple, tout votre corps sera simple, mais si votre œil est mauvais, tout votre cœur sera mauvais. Et la vraie discrétion ne s'acquiert qu'au prix de la vraie humilité. Et là, l'humilité en milieu monastique, c'est quelque chose d'assez radical, puisqu'il faut renoncer à sa volonté propre. De celle-ci, la première preuve sera de laisser aux anciens le jugement de toutes ses actions et même de ses pensées. Tellement que l'on ne se fie en rien à son jugement propre, mais qu'en toute chose on acquiesce leurs décisions et que l'on veuille connaître que de leur bouche ce qu'il faut tenir pour bon, ce qu'il faut regarder comme mauvais. Il est impossible de tomber dans l'illusion si l'on ne fait point son jugement propre, mais des exemples des anciens, les règles de sa vie. C'est très important, ça. Souvent, les gens sont mus par leur volonté propre. C'est très dangereux, parce que ça peut les amener dans l'illusion. En obéissant à un père spirituel, et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai aussi pour les laïcs, ils renoncent à leur volonté propre. Et en renonçant à la volonté propre, ils font un acte d'humilité. Et là, qui les protège en quelque sorte. L'obéissance protège. Et ça, ça se voit aussi chez plusieurs moines du Mont Athos. L'obéissance est un raccourci dans la vie spirituelle. Par exemple, c'est ce qu'explique le père Ephrem de Katunakia. Il est allé extrêmement vite dans la vie spirituelle grâce à son obéissance, uniquement grâce à l'obéissance. Le moyen d'atteindre facilement à la science de la vraie discrétion est donc de marcher sur la trace des anciens. Voilà, donc la sagesse tient à l'homme de cheveux blancs, la véritable vieillesse c'est une vie sans tache, c'est une citation de la sagesse. Dans la troisième conférence, nous sommes en présence d'un abbé Abba Paphnus, P-A-F-N-U-C-E, il va nous parler des trois renoncements. Quelles sont les origines, en quelque sorte, de la vocation? La vocation peut venir de Dieu. L'appel peut venir de Dieu. Par exemple, Abraham ou Antoine. Par un intermédiaire humain. C'est la délivrance d'Israël par Moïse. Par nécessité. Moïse qui est obligé de s'enfuir dans le désert par crainte de la peine capitale. Et les renoncements, selon la tradition des pères, qui s'unit à l'autorité des Écritures, pour montrer qu'ils sont au nombre de trois. Il y a trois renoncements qui s'exercent évidemment principalement dans la vie monastique, mais dont on peut adapter en quelque sorte aussi pour les laïcs. Le premier est corporel, c'est celui qui nous fait mépriser toutes les richesses et les biens de ce monde. Par le deuxième, nous renions notre vie passée, nos vices, nos passions, de l'esprit et de la chair. Le troisième consiste à retirer notre esprit des choses présentes et visibles pour contempler uniquement les choses à venir et ne désirer que les invisibles. Nous avons donc une montée, n'est-ce pas, de l'être humain vers Dieu. Qu'il les faille accomplir tous les trois à la fois, c'est le commandement que le Seigneur déjà faisait à Abraham, lorsqu'il lui dit « Sors de ta terre et de ta parenté et de la maison de ton père. » Et là, nous avons une interprétation qui est très ancienne, puisqu'on la trouve déjà chez Philon d'Alexandrie, avec des nuances. Sors de ta terre, c'est-à-dire renonce aux biens de ce monde et aux richesses d'ici-bas. Sors de ta parenté, c'est-à-dire renonce à ta vie et à tes habitudes d'autrefois, à tes vices. Sors de la maison de ton père, c'est-à-dire bannis de tes regards tout souvenir du monde présent. Nous avons deux pères, explique là-bas Paphnus, l'un qu'il nous faut quitter et l'autre qu'il nous faut suivre. David marque tous deux au même endroit des psaumes lorsqu'il fait dire à Dieu « Écoute ma fille et regarde, oublie ton peuple et la maison de ton père. » Cet oubli se fait lorsque, mort avec le Christ aux éléments de ce monde, nous contemplons, selon le mot de l'apôtre, non plus les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. C'est 2 Corinthiens 4, 18. Lorsque, désertant de cœur cette demeure temporelle et visible, nous portons nos regards vers celle où nous habiterons éternellement. Cet état sera le nôtre. Dès là que, vivant dans la chair, nous cesserons cependant d'agir selon la chair pour militer au Seigneur et qu'en toute vérité, nous pourrons redire la parole du bienheureux apôtre « Pour nous, notre cité est dans le sien et dans les cieux. » Philippiens 3, 20. À ces trois renoncements correspondent exactement les trois livres de Salomon. Au premier conviennent les proverbes qui s'appliquent à retrancher les biens terrestres et les vices charnels. Au deuxième, l'Ecclésiaste, où il est proclamé que tout est vanité de ce qui se fait sous le soleil. Au troisième, le Cantique des Cantiques, dans lequel l'âme, dépassant tout le visible, s'unit déjà par la contemplation des célestes mystères au Verbe de Dieu. Là, nous avons aussi une interprétation patristique très traditionnelle, puisqu'on la trouve déjà, je pense, chez Origène, par exemple. Le renoncement et le martyre de l'homme extérieur ne sont d'aucun avantage dès là que l'homme intérieur restera captif de ses vices anciens. Donc là, c'est toujours l'idée sur laquelle revient sans cesse Cassien. L'acte extérieur est de peu de profit s'il ne conduit pas, s'il n'a pas de conséquences sur l'intériorité de la personne. Ce qui compte pour lui, c'est l'intériorité, encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de la personne et pas tellement l'acte. À nous donc de bannir en toute hâte et saint empressement et de dissiper les richesses de vices acquises par notre homme intérieur durant sa première vie. Constamment adhérentes au corps et à l'âme, elles sont bien nôtres. Et si nous ne savons nous en détacher et les retrancher tandis que nous sommes encore en cette vie, elles ne laisseront pas de nous accompagner après notre mort. Là aussi, vous avez la vision de Cassien qui dépasse complètement la vie actuelle qui se situe dans une vision eschatologique. De même que les vertus acquises ici-bas, et particulièrement la charité, l'amour qui en est la source, revêtent encore par-delà la mort de beauté splendide celui qui les aima, les vices obscurcissent et pénètrent l'âme de je ne sais quelles horribles couleurs qui lui demeurent après son passage à éternel séjour. Ainsi, lorsque nous disons adieu aux richesses matérielles, ce ne sont pas des biens à nous que nous laissons, mais des biens étrangers. Je vous l'ai dit, rien n'est à nous que ce qui est dans notre cœur. Ça, c'est très fort aussi. Ce qui est vraiment à nous, ce qui nous constitue vraiment, c'est ce qui est au fond de nous-mêmes. Rien n'est à nous que ce qui est en notre cœur et fait un avec notre âme. Et c'est ça qui adhère à notre âme, c'est ça qui adhère à notre cœur. En sorte qu'il soit au pouvoir de personne de nous les ravir. C'est pour ça que la charité ne passera pas, c'est pour ça que l'amour ne passera pas. Et c'est pour ça aussi que les actes extérieurs passent. Ainsi donc, le premier renoncement n'est que l'abdication d'un bien étranger. Il ne peut suffire par lui-même à donner la perfection. Il faut aller jusqu'au deuxième, par lequel vraiment nous abandonnons ce qui nous appartient. Celui-ci réalisé, notre vice banni, nous élèverons sur les cibles du troisième. Un esprit souverain emportera notre cœur et notre pensée. Par-dessus, je ne dis pas seulement des événements de ce monde, et des propriétés particulières des humains, mais encore de l'universelle plénitude elle-même des éléments, quelque magnificence qu'on lui veuille trouver, comme étant esclave de la vanité et destiné à passer sans retard, uniquement occupé, selon la parole de l'apôtre, de contempler, non plus ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas, car les choses visibles ne sont que pour un temps, tandis que les invisibles sont éternels. Tant qu'enfin nous méritions d'entendre à notre tour l'invitation suprême qui fut faite jadis à Abraham, « Viens dans la terre que je te montrerai. » Par quoi il nous est montré manifestement qu'à moins d'avoir accompli d'abord de toute l'ardeur dans notre âme les trois renoncements, l'on n'obtient pas ce que le Seigneur ajoute en quatrième lieu, comme le prix accordé au détachement parfait, c'est-à-dire d'entrer dans la terre de la promesse. Viens dans la terre que je te montrerai. Ces paroles sont une preuve évidente que le commencement de notre salut se fait par vocation divine. C'est Dieu qui nous appelle. Sors de ta terre et que l'achèvement de notre perfection et de notre pureté doit aussi lui être attribué. Viens, dit-il, dans la terre que je te montrerai. Ni de toi-même tu ne le puis connaître, ni tes efforts ne te la feraient découvrir. Alors Germain pose la question, mais alors, en quoi consiste notre libre arbitre? Et l'abbé Paphnutius nous répond, nous savons que Dieu ménage à chacun des occasions de salut, d'une manière à celui-ci, d'une autre à celui-là. Mais d'y répondre avec zèle ou mollement, cela est de nous. Soyons certains pourtant, que mettrions-nous à pratiquer toute vertu les plus persévérants efforts, n'attendrons point par notre zèle et notre activité personnelle à la perfection, et que tout le labeur de l'homme reste insuffisant à lui mériter le prix sublime de la béatitude. Il y faut la coopération du Seigneur. Il faut qu'il dirige notre cœur au bien. Donc vous voyez que les accusations portées contre Cassien sont largement fausses. En fait, on a l'impression que Cassien s'adresse plus aux Pélagiens qu'à Augustin. Ce que je dis, ajoute Paphnutius, ce n'est pas pour déclarer inutile notre zèle, nos labeurs et nos soins comme vains et superflus, mais afin de nous bien persuader que sans l'aide de Dieu, ni nous ne sommes capables de faire effort, ni nos efforts ne sont efficaces pour conquérir le prix ineffable de la portée. Les tentations elles-mêmes, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je vous rappelle que ça se trouve dans saint Paul, dans 1 Corinthiens 10, 13. La tentation fait partie, l'épreuve fait partie aussi du progrès. Il y a un apostègue d'ailleurs qui dit « Enlevez la tentation et personne ne sera sauvé ». Le premier mouvement de bonne volonté nous vient d'une inspiration de Dieu. Ce qui est de nous, c'est de correspondre, ou mollement, ou avec zèle, à l'impulsion de sa grâce. Et nous méritons soit la récompense, soit le supplice, selon que nous avons pris à cœur ou négligé de nous accorder aux vues bienveillantes et libérales de la Providence à notre endroit, par la religieuse ardeur de notre obéissance. Donc, Cassien insiste largement sur l'importance de la grâce divine dans les actes de l'homme. La quatrième conférence est une variation, on peut dire, sur la troisième. C'est de la concupiscence de la chair et de l'esprit. Et cette guerre, dit l'abbé Daniel, n'est qu'une disposition que le Créateur allume en nous d'une certaine manière et qui a son utilité. Elle nous excite, elle nous force à devenir meilleurs. Si elle venait à cesser, on lui verrait succéder une paix funeste. C'est-à-dire que la guerre, en quelque sorte, est aussi le signe d'une vie spirituelle bien vivante. Et il y avait un moine une fois qui se lamentait en disant « Mais je ne suis plus tenté. Dieu m'a délaissé, je ne suis plus tenté. » Bon. La conférence de l'abbat Sérapion, c'est la cinquième conférence, c'est celle des huit principaux vices. Alors, je ne vais pas insister, on l'a déjà vu, ça, je crois. Je vous rappelle encore une fois que vous avez sur le site le tableau de la vie ascétique selon Saint Jean Cassien. Et je vous rappelle que j'avais proposé une ordonnance justement de ces vices en fonction des puissances de l'âme et de la progression spirituelle. On a déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que maintenant, ça doit être plus ou moins assimilé. Ce que l'on peut remarquer, c'est quand même intéressant, c'est que Saint Jean Climate, dans l'échelle sainte, cite Saint Jean Cassien. Il le cite justement à propos de la conférence sur le discernement. Et ce qui est intéressant aussi, et ça c'est aussi une piste à creuser, c'est on voit par exemple que dans la philokalie grecque, Saint Jean Cassien est présent. Vous savez, souvent dans la philokalie, on résumait la pensée d'un auteur et on présentait des petites synthèses qui étaient facilement assimilables par les moines. Or, sur quoi pesait, qu'est-ce qui a intéressé l'auteur de la synthèse sur Saint Jean Cassien ? C'est les huit vices, qui effectivement sont vraiment très importants, et c'est le discernement, qui sont des choses absolument fondamentales. Et d'ailleurs, la philokalie insiste beaucoup plus sur la première phase de la vie spirituelle, c'est-à-dire la purification de la partie passionnée de l'âme, le combat spirituel, plutôt que des grandes envolées littéraires. On peut relever des idées intéressantes. Par exemple, l'idée que les vices, mais ça on en avait déjà parlé, les six premiers sont liés entre eux, l'enchaînement qu'il y a entre les vices, et aussi quelque chose qui n'est peut-être pas à pratiquer par tout le monde, qui est le fait que l'on peut utiliser une pensée pour lutter contre une autre. C'est Evagre déjà qui avait parlé de ça. C'est quelque chose qui n'a pas été retenu tellement par la suite parce que cela suppose que la personne soit déjà vraiment aguerrie, que ça suppose un certain contact avec une pensée. Par exemple, lorsque un moindre mal peut servir à en étouffer un plus grand. Par exemple, lorsque vous avez une pensée de concupiscence et que vous dites « Mais alors, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça ?» J'aurais l'air ridicule, ou et voilà, ma fonction, etc. C'est-à-dire jouer sur le côté orgueil, en quelque sorte, pour lutter contre la pensée de concupiscence. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas, disons, praticable par tout le monde. Et en général, les pères ne conseillent pas de faire ça, conseillent plutôt de bloquer la pensée. Et de bloquer la pensée par la prière de Jésus. C'est un moyen plus sûr, parce que qui implique aucun dialogue avec la pensée. Aussi, une idée, bon, bien sûr qu'il faut que toutes les vices ne nous attaquent pas de la même façon. Chacun a son point faible. Celui-ci sera plus à tout attaqué par cela, etc. Donc il faut, là aussi, faire un certain discernement et trouver le vice qui est le plus important, en quelque sorte, celui contre lequel il faut concentrer ses efforts. Que chacun, après avoir reconnu le vice qui le sert de plus près, institue de ce côté principalement le combat et observe avec toute attention la sollicitude dont il est capable ses démarches offensives. C'est intéressant de voir comment les pensées progressent, qu'est-ce qui les suscite, pourquoi nous avons telle ou telle pensée, de réfléchir un peu à ça, parce que c'est une manière aussi de les éviter et de les couper. Et là, il y a aussi une image qui revient, ces vices sont les sept nations dont le Seigneur promet de donner les terres aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'est une explication traditionnelle aussi des huit pensées des vagues qui sont comparées. Vous savez, lorsque les Hébreux sont arrivés en Terre Sainte, ils ont dû s'affronter à sept peuples. Et ces sept peuples sont comparés aux sept passions. Et Germain, évidemment, ne manque pas de poser la question. Oui, mais il y en a huit. Où est la huitième? Et la barre en question, qui est la barre Sérapion, en l'occurrence. Il y a huit principaux vices, mais les Hébreux sont de la sortie d'Égypte qui représentait justement la gastrie marguise, c'est-à-dire le goût excessif pour la nourriture. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que les vices ne sont pas combattus en soi, mais ils sont remplacés par des vertus. C'est-à-dire qu'en général, le combat contre les vices s'accompagne de l'acquisition d'une vertu. La chasteté, la colère remplacée par la patience, la tristesse qui est négative, une tristesse positive, l'orgueil, l'humilité. Donc, là aussi, dans le combat contre les passions, il ne faut jamais croire que par la simple lutte contre les passions, on peut atteindre une pureté des parfaits. Ainsi, ne dira-t-il jamais la pureté des parfaits, celui qui l'attendra de la seule mortification ou jeûne corporel. Il faut qu'il sache viser au-delà et qu'il se propose, en humiliant le corps par ce moyen, d'engager ensuite plus facilement le combat contre les autres vices sans être troublé par les insolences d'une chair rassasiée et contente. C'est d'après le vice qui tient chez nous le premier rang et selon que l'exige le mode de l'attaque que nous devons régler notre tactique. Celle-ci, en nous donnant la victoire et le triomphe, nous fera parvenir à la pureté du cœur et à la plénitude de la perfection. La sixième conférence est une conférence de l'abbé Théodore, qui n'était pas de CT, mais qui était des Kélia, qui a du désir des cellules. Et elle porte sur le meurtre des saints. Il y avait effectivement un certain nombre de saints personnages qui avaient été en Palestine, qui avaient été tués. Et donc la question, le débat va porter sur ces meurtres. Quelques phrases qui sont intéressantes. Il n'est de bien que la vertu qui procède de la crainte de Dieu et de la dilection, de mal que le péché et la séparation d'avec Dieu. Et maintenant, examinons soigneusement si jamais Dieu a permis que ces saints souffrissent quelque mal, soit de sa part, soit de quelque autre. On n'en trouvera pas un exemple, certainement. C'est qu'à celui qui refuse son assentiment et résiste, il est impossible que l'on cause le mal du péché. Celui-ci ne pénètre que là où un cœur lâche et une volonté corrompue lui donnent accueil. Ainsi, lorsqu'un saint reçoit la mort, il ne faut pas croire que lui ont fait quelque mal, mais une chose indifférente. Ce qui serait mal pour le pécheur marque l'heure du repos pour le juste et de la délivrance de tous les maux. La mort est un repos pour l'homme. La mort est un repos pour l'homme dont les voies sont cachées. C'est Job 3, 23, d'après le texte de la Septante. L'homme juste n'éprouve d'elle aucun détriment. Il acquitte la dette d'une loi sans exception, qu'une loi sans exception l'aurait contraint de payer, mais en recueillant de ses souffrances un fruit magnifique et le prix d'une infinie récompense. Remarque intéressante aussi, il est impossible à l'âme humaine de rester stationnaire. La vie spirituelle n'est jamais stationnaire. Il n'est pas de saint tant qu'il vit dans la chair qui s'établisse tellement sur les cimes de la vertu qu'il y puisse demeurer immobile. Il faut qu'il croisse sans cesse ou qu'il diminue. Soit on progresse, soit on recule, mais on ne reste pas sur place. Et la conclusion, c'est n'acquérir pas, c'est perdre. Lorsque s'éteint le désir d'avancer, le danger est proche de reculer. Et Lorsque quelqu'un tombe, il ne faut pas croire que sa ruine soit un effet soudain, ou bien une formation défectueuse à l'origine l'a mis sur une fausse route, ou une longue négligence a énervé peu à peu sa vertu et laissé croître les vices. Sa lamentable chute en est la suite. Une maison ne s'écroule pas rapidement. Enfin, la dernière conférence que nous verrons aujourd'hui, c'est la première conférence de l'abbé Sérénus. Sérénus, S-E-R-E-N-U-S, de la mobilité de l'âme et des esprits du mal. Quelques phrases qui me semblent intéressantes. Qu'ai-je donc gagné à découvrir les cimes si les voyants, je demeure impuissant à les gravir? Parfois, nous sentons que le regard de notre cœur se dirige à son objet, mais notre esprit glisse insensiblement de ses hauteurs pour se précipiter avec une fougue plus importante à ses divagations premières. Pour ce qui est de l'esprit humain, il se définit comme un proie à une perpétuelle extrême mobilité. Donc là, c'est une remarque que tout le monde, enfin tous les pères ont fait, c'est la mobilité de l'esprit, le fait qu'il a beaucoup de mal à se fixer sur quelque chose. Ce n'est qu'à la longue que l'exercice et l'usage, vous dites que vous avez perdu votre peine, lui feront perdre d'expérience les sujets qu'il doit préparer à ses mémoires pour y revenir toujours sans se lasser et acquérir la force de se fixer. Là, on revient, si vous voulez, sur les thèmes de l'acquisition de l'écriture, de la lecture de l'écriture, etc., l'imprégnation de ces textes, qui, dans un mouvement de progression spirituelle, font que l'esprit revient et s'y fixe. Enfin, il ne faut pas oublier qu'un des moyens, justement, pour clouer, en quelque sorte, cet esprit mobile, c'est la prière de Jésus, et qui justement est fixée à ce moment-là. Notre propre expérience nous fera connaître à la fois le devoir et la possibilité de rester intimement unis au Seigneur si nous mortifions nos volontés et retranchons les désirs de ce monde. Personne ne parviendra dans la vie future à cette mesure pleine, or celui qui, dès la vie présente, en aura nourri d'avance sa pensée. La vie future est liée à la vie présente. C'est maintenant que tout se joue, en quelque sorte. Parce que maintenant, nous avons le choix. Celui qui demeura encore dans ce siècle, on en a pris quelques avant-goûts, qui est marqué pour un membre très précieux du Christ, possédera même, en cette chair mortelle, les arts de l'union qui attachera un jour au corps du Seigneur. Tenir en gage, dès ici-bas, ce qui est dit pour l'éternité de la bienheureuse vie des saints, et que pour lui se réalise la parole de l'apôtre, Dieu tout en tous. Il revient sur la tentation, comme ils ont le pouvoir de nous tenter, les esprits du mal, la force nous a été donnée de rejeter leurs suggestions et la liberté d'y acquiescer. Et quelques remarques aussi. Il n'est pas étonnant qu'un esprit puisse joindre insensiblement à un autre esprit exercé sur lui, pour les fins qu'il lui plaît, une force secrète de persuasion. Entre eux comme entre les hommes, il y a similitude de nature et de parenté. Mais de pénétrer et de s'unir naturellement au point que l'un contienne l'autre, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Notre esprit ne peut pas être uni, en quelque sorte, et contenu. Cette prérogative n'est attribuée qu'à la divinité, parce que seule elle est une nature incorporelle et simple. Une remarque aussi intéressante. Un esprit peut imprégner une matière épaisse et massive comme est notre chair, rien n'est plus facile. Mais on ne croira pas pour autant qu'il puisse également s'unir à l'âme, qui est esprit comme lui, de manière qu'ils soient réciproquement l'un dans l'autre. Ceci n'est au pouvoir que de la seule Trinité, qui pénètre tellement les natures intellectuelles que non seulement elle les embrasse et les enveloppe, mais s'écoule et se répand en elles, comme dans un corps, une essence incorporelle. Nous disons, il est vrai qu'il existe des natures spirituelles, mais il ne faut pas croire qu'elles soient incorporelles. Là, c'est une tradition qui vient des homélies macariennes, qui expliquait que ces natures spirituelles n'étaient pas immatérielles, mais étaient d'une matière subtile, en quelque sorte. Ça, faut bien voir que la pensée des pères n'est pas non plus une pensée dogmatique et uniforme, et que vous avez, par exemple, une conception de l'âme qui est celle de Saint Macaire, et que, qui ne sera pas tout à fait celle, par exemple, de Saint Athanase. Ça dépend aussi des traditions dans lesquelles ils s'inscrivent. Traditions philosophiques, parfois, certains qui font plutôt référence à Platon et aux puissances de l'âme, d'autres qui font plutôt référence à la tradition stoïcienne, où l'âme est diffuse dans tout le corps, et que le centre de l'âme dans la tradition stoïcienne, c'est le cœur. Et ça, c'est pour ça qu'on a l'importance du cœur dans les homélies macariennes, et c'est pour ça aussi qu'on a l'importance du nous dans la tradition alexandrine. Le nous est en plus en rapport avec la conception traditionnelle d'école, en quelque sorte, qui vient de Platon, le cœur étant plus en relation avec la tradition qui vient des stoïciens, mais aussi plus en relation avec la tradition biblique elle-même, où le cœur est considéré comme le centre de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a rencontre au niveau du cœur entre une tradition stoïcienne et une tradition biblique, et qu'on a un peu ici. Donc, ce qu'il dit, c'est que, et c'est ce que disent tous les pères, c'est-à-dire que les démons, les esprits mauvais ne peuvent pas vraiment pénétrer dans la pensée de l'homme, ils ne peuvent pas connaître les raisonnements de l'homme. Et ils peuvent seulement du dehors, par un raisonnement fondé sur des sensibles, tels que nos dispositions, les paroles que nous disons, et les occupations ou les remarques que nous avons plus de penser. Donc par là, ils peuvent agir. Et pour celles qui ne sont pas encore sorties du sanctuaire de l'âme, elles leur demeurent entièrement inaccessibles. Remarque aussi, nous ne devons pas ignorer non plus que les démons ne sont pas tous également féroces ni passionnés, tous de même force et de même malice. Les commençants et les faibles ne sont mis aux prises qu'avec les moins puissants. C'est seulement quand il a triomphé de ses premiers adversaires que l'athlète du Christ doit graduellement affronter de plus rudes batailles. Les difficultés de la lutte augmentent en proportion de nos forces et de nos progrès. Par exemple, saint Antoine. Les esprits mauvais n'ont pas la liberté de faire du mal à qui que ce soit. Personne, je ne dis pas seulement les jeunes que nous voyons si constants à demeurer dans la solitude, mais aussi parmi les parfaits eux-mêmes, ne pourrait habiter seul le désert au milieu de tant et de si redoutables ennemis s'ils avaient la licence de nous nuire et de nous tenter autant qu'ils le voudraient. Il faut donner la communion au possédé. Reçue par lui, elle devient l'esprit qui réside dans ses membres ou ses forces aussi cachées, un feu qui le brûle et le contraint à la fuite. Mais ceux-là sont vraiment misérables et dignes de pitié, qui, souillés de tous les crimes et de toutes les hontes, non seulement ne laissent paraître aucun signe de possession diabolique, mais n'ont pas même à souffrir quelque épreuve digne de leur forfait, pas le moindre châtiment. C'est qu'ils ne méritent pas le remède si rapide et si prompt du temps qui passe. Leur endurcissement et leur cœur impénitent excèdent les châtiments de la vie présente. Voilà, nous avons vu, je crois, parcouru ces sept premières conférences qui nous ont amenés depuis la pureté du cœur jusqu'aux luttes contre les démons. Il faut bien voir aussi que ces conférences s'adressent plutôt, à mon sens, à des anachorètes. Plus. Autant les institutions synoptiques s'adressent à tout le monde, tous les moines. Les conférences, c'est déjà autre chose. Parce qu'elles sont le fait de solitaires, souvent, et elles s'adressent déjà à des gens qui recherchent en quelque sorte une forme de vie qui le fera progresser plus rapidement. Et là aussi, Cassien est très clair, les formes de vie sont diverses et tout le monde n'est pas fait pour chaque forme de vie. Certains s'épanouiront dans la vie synovitique, d'autres s'épanouiront dans la vie anachorétique, et d'autres, il le dit, s'épanouiront dans le service de l'hôpital, c'est-à-dire dans la charité concrète. Mais voilà, donc il n'y a pas il y a des vocations, et ces vocations sont différentes et sont aussi fonction de la nature de chacun. Voilà, je m'arrête là.
J'aurais une petite question. En fait, vous avez parlé de l'influence que le milieu syrien a eue sur Saint Jean Cassien. Vous avez parlé de Macaire, mais quand vous avez parlé de ce qu'il disait sur la contemplation de Dieu, cette idée que quand on admire la manière dont Dieu gouverne le monde, c'est là aussi qu'on contemple en quelque sorte Dieu. Et on voit avec Isaac le Syrien aussi, c'est lui aussi qui dit, Isaac le Syrien, il dit que n'a pas connu Dieu, c'est lui qui ne s'émerveille pas des choses de Dieu, quelque chose comme ça. Donc on voit en fait, il est imprégné des œuvres des pères, mais en même temps je crois que ça vient aussi de son expérience, parce qu'on ne peut pas parler de ces choses-là sans... Ça vient, c'est son expérience propre aussi. Même s'il est influencé par... Mais peut-être, je n'étais pas là la première séance, mais si vous pouvez rappeler un petit peu combien de temps il a passé dans ces milieux syriens.
Parce que, il n'a pas passé... Enfin, bon, j'ai donné le... Je n'ai pas sur moi la biographie de Saint-Jean Cassien. Vous le trouverez sur le site. Vous trouverez sur le site avec les dates. Simplement, les grands moments, si vous voulez, de son voyage, c'est qu'il s'est rendu donc en compagnie de Germain à Bethléem, près de la grotte de la Nativité, et c'est là où il a entrepris de devenir moine. Et c'est là aussi où il a rencontré un moine d'Égypte, Paphnus, qu'il va rencontrer d'ailleurs dans les conférences plus tard, qui va lui parler de l'Égypte et qui va lui donner l'envie d'aller en Égypte. Et Paphnus était venu à Bethléem parce qu'il avait trop de succès. C'est ce qui se produit avec beaucoup de spirituels hein, qui commencent à avoir un peu d'envergure, ou simplement qui se font... Enfin, ça, on le sait qu'il y a un tel, qui, etc. Et donc, ils commencent à recevoir trop de gens. Donc, ils commencent à être dérangés dans leur vie spirituelle. Et comme dirait Saint Jean Cassien, il faut écarter tout ce qui peut perturber, n'est-ce pas, la vie spirituelle. Donc, à ce moment-là, Paphnus a préféré partir carrément. Il est parti à Bethléem. Bon, et puis finalement, il est parvenu, je crois, était dans un monastère cénobitique, et les moines de ce monastère ont quand même insisté pour qu'il revienne, et finalement, il est revenu. Et c'est Paphnus qui va donner envie à Saint Jean Cassien et à Germain de venir en Égypte. Donc, il est resté un peu à Bethléem, mais surtout... Bon, il a certainement été au courant, si vous voulez, de la spiritualité de Syrie-Palestine. Mais je crois aussi qu'il faut tenir compte de son séjour à Constantinople. C'est là où il a rencontré Saint Jean Chrysostome, qui lui-même a été moine en Syrie. Vous voyez ? Et donc il y avait des écrits qui circulaient, il y avait des choses qui étaient... et les homélies macariennes... Ça faisait partie des grands écrits, enfin, il y avait plusieurs groupes d'homélies qui circulaient. Voilà, donc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que. On voit très bien que. Évagre était parti dans un sens trop, on va dire, abstrait, et qui a une espèce de recentrement qui va se faire dans la spiritualité. Il faut voir la spiritualité comme un fleuve, si vous voulez. Le premier, il est un peu imparfait, bon, et même Évagre a été même très imparfait sur certains points. Et ensuite, celui qui continue, il va progresser en approfondissant et en redressant un peu la barre. Et donc, vous allez avoir aussi bien un approfondissement qui va se faire par les homélies macariennes que par Saint Jean Cassien. Et donc, on peut dire, si vous voulez, entre guillemets, hein, que Saint Jean Cassien va jouer ce rôle de recentrage christologique, on pourrait dire, de la vie spirituelle, de la même manière que Macaire va jouer ce rôle. Vous voyez ? C'est-à-dire que la réception des vases va se faire de façon différente et le recentrage autour du Christ. Et là, il y a une certaine communauté, on pourrait dire, qui une certaine, en même temps, unité qui va se faire entre le monde syrien et Jean Cassien. Et Diadoque de Poitiers aussi par la suite, par exemple. C'est un sujet qui est complètement inexploré, hein, ça. Là, si ça vous intéresse, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, je crois, de montrer justement comment Cassien s'insère dans ce mouvement.
En même temps, il parle de discernement, et je sais, j'ai lu quelque part que chez Saint Antoine le Grand disait que le discernement, c'est la plus grande vertu. Et lui, il dit en quelque sorte que c'est un peu la base, il faut discerner pour... Donc on peut être un peu, je ne sais pas, entre les deux, on peut être un peu découragé, parce que le discernement, certains pères nous disent que c'est la plus grande vertu, pouvoir discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et Saint Jean Cassien nous dit que c'est un peu la base, il faut partir de là pour pouvoir...
Oui, mais il dit aussi que ce discernement s'acquiert, et que ce discernement s'acquiert par l'humilité. C'est très important, ça. C'est par l'humilité que l'on acquiert le discernement. Voilà. C'est rassurant, dans un sens. Mais il faut bien voir que dans toute cette vie spirituelle, ce sont toujours des dons, ce sont toujours des charismes. Le discernement est un charisme, est un don aussi. C'est pour ça aussi que la querelle qu'on a faite à Saint Jean Cassien, vous trouvez qu'il était semi-pélagien, ou je ne sais pas quoi. C'est complètement déplacé. On a l'impression que, si vous voulez, bon, Pélage insistait sur le fait que les efforts de l'homme peuvent lui acquérir quelque chose. Bon. Augustin, lui, c'est absolument le contraire. Bon. On a l'impression qu'il s'adresse plus à Pélage qu'à Augustin dans ses conférences.
En même temps, il parle aussi du fait que l'effort n'est pas inutile.
Je pense qu'Augustin.
Augustin disait qu'on ne peut pas faire bien.
Voilà, donc personne ne va dire que l'effort est inutile. Augustin non plus ne va dire que l'effort est inutile. Bien sûr que non. Hein? Donc il y a un accord, mais il y a en même temps, si vous voulez, je dirais plus une vision. Parce que Augustin voit l'humanité comme une massa damnata, une masse de gens damnés, dans laquelle Dieu distribue sa grâce, on ne sait pas très bien pourquoi. La grâce est gratuite, ça tombe comme ça. Cette manière de voir les choses n'est pas patristique. Vous voyez ? C'est plus une approche, c'est plus une certaine conception qui est presque manichéenne, mais bon, je ne sais pas si ça remonte pas aux origines manichéennes d'Augustin, enfin, ce type de conception, qui est très noire, en fait, hein, ce qui va l'amener à des choses tout à fait inacceptables, dire que les enfants non baptisés vont en enfer, et des choses comme ça. Voilà, donc il y a cette vision, en quelque sorte, souriante de Saint Jean Cassien. Alors que la vision d'Augustin est un peu sinistre, si vous voulez. Et je pense que la querelle qu'on lui a faite est complètement déplacée. D'ailleurs, je ne crois pas que l'accusation qu'on ait faite de semi-pélagianisme, c'est une accusation, je crois, qu'on a faite au XVIIe, XVIIIe siècle. Il y a eu un concile à Arles au VIe siècle, je crois, c'est un peu les dates du concile d'Arles, et il y avait un père, Prosper d'Aquitaine, qui avait écrit un ouvrage contre les conférences à l'époque. Et Prosper d'Aquitaine se situant dans la lignée d'Augustin. Et le concile d'Arles, si j'ai bonne mémoire, avait donné raison à Prosper d'Aquitaine contre Saint Jean Cassien. Voilà, mais bon, je crois qu'aussi dans l'Église catholique, Saint Jean Cassien est aussi un saint. Mais il n'a peut-être pas l'impact qu'il aurait dû avoir à cause de cette querelle qui lui a été faite sur la grâce. D'autant plus que c'est un sujet qui va devenir très important au XVIIe, XVIIIe siècle, avec le jansénisme. La querelle sur la grâce, voilà. Donc ça va ressurgir à cette époque, et c'est à cette époque, si vous voulez, qu'on va qualifier Saint Jean Cassien de semi-pélagianisme. C'est assez tardif. Voilà.
Peut-être une dernière question sur le mouvement, sur la différence qu'il fait entre l'acte extérieur et l'acte intérieur, sur le mouvement de l'âme, en disant que ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et je ne sais pas, donc il s'adresse plutôt aux anachorètes par rapport à la relation avec le prochain, mais je ne sais pas s'il parle aussi. Moi, je n'ai pas lu Saint Jean Cassien, juste quelques extraits, mais est-ce qu'il parle aussi dans le contexte liturgique un petit peu sur, ou pas du tout, il ne fait pas de référence, parce que si on pense un petit peu à la façon de, je ne sais pas, on récite des prières, on fait des actes dans l'église sans vraiment y être, ou je ne sais pas s'il fait référence à ça, ou il parle plutôt de la relation avec le prochain.
Bien sûr qu'il doit faire référence à ça, mais ça, on en reparlera d'une façon plus spécifique. Sur la façon de prier, parce que ça c'est le centre en quelque sorte vraiment de la vie monastique, c'est la prière, et ça viendra dans les conférences 9 et 10 et surtout dans la 10e conférence. D'accord. Donc oui, mais ce qu'il veut dire essentiellement, et je crois, c'est qu'il faut faire attention aussi aux actes. C'est-à-dire qu'il y a des spirituels qui parfois vont s'enorgueillir, si vous voulez, de leur prouesse spirituelle.
C'est un art.
Vous voyez, donc, mais c'est très dangereux, vous voyez. Et non seulement ça, mais il y a aussi autre chose. Par exemple, ceux qui s'enorgueillissent de leur prouesse spirituelle, Kazantzakis, par exemple, l'écrivain grec, a fait un voyage au mont Athos. Et lorsque le bateau est passé devant un certain nombre de skites, il y avait des ossements qui étaient là, et il raconte que c'était des moines qui avaient cru qu'ils étaient devenus des anges et qu'ils étaient tombés finalement dans... Voilà, donc c'est ce qu'on peut appeler un manque de discernement. Il y a aussi autre chose, peut-être, c'est de ne pas, si vous voulez, croire que l'on est arrivé à quelque chose en fonction d'une action, si cette action ne contribue pas à mettre la personne dans un état d'humilité. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces actions ont un but qui est celle de faire progresser la personne vers une certaine forme d'humilité et de pureté du cœur. Si ces actions n'ont pas cet effet-là, à ce moment-là, elles ne sont pas... Là aussi, c'est un problème de discernement. Vous voyez ? À quoi ça sert ? Pourquoi vous faites ça ? Vous voyez ? Voilà. Et puis, il y a aussi le fait qu'il explique, par exemple, qu'il faut tenir compte aussi de la nature propre de chacun. Certains peuvent faire certaines choses, d'autres peuvent faire d'autres, etc. Nous sommes ce que nous sommes. Il ne faut pas se prendre non plus pour des... des Superman ou je sais pas quoi. Voilà.